Cinérama.
Cette nuit, notre clistron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Cinérama, avec un générique un peu spécial pour débuter cette année, puisque The Artist est vraiment le grand gagnant des Golden Globes, Marine.
Oui, exactement, et peut-être même bientôt des Oscars, c'est ce que nous verrons tout à l'heure.
Voilà, parce que je savais que tu allais en parler, donc je me suis dit, eh bien, on va nous aussi fêter ce grand succès aux États-Unis de Jean Dujardin et de Hazanavicius. Voilà. Alors ben, sinon c'est la première émission de 2012, on s'était quitté en 2011, peu avant Noël. Alors il y a eu de nombreux films qui ont été forcément projetés, on va pas parler de tous ces films, d'autant que moi cette semaine j'ai quand même participé à de nombreuses avant-premières, c'était le festival des avant-premières dans les cinémas Gaumont. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Marine ?
Alors moi côté film, je vais vous parler de Une vie meilleure de Cédric Kahn et de Parlez-moi de vous avec Karine Viard, et puis nous allons faire notre propre palmarès 2011 concernant les films que nous avons aimés ou pas. Et donc je vous parlerai du cas très particulier de The Artist en ce moment dans les cérémonies qui récompensent les films.
Et puis eh bien moi je vous parlerai de Dans la tourmente, de L'amour dure 3 ans qui sort aujourd'hui. Il se trouve que Frédéric Becbédé était venu avec Joe Starr, c'était en 2011 hein, qu'ils étaient venus présenter leur film en avant-première. Et puis eh bien tout au long de cette émission, on découvrira une espèce de panorama sonore avec les bandes-annonces, alors des films qu'on a chroniqués, alors plus spécifiquement des films que j'ai chroniqués parce que c'était plus simple pour tout monter. Il y en a certains aussi que tu as chroniqués durant l'année 2011. Et donc voilà, bah, ce sera ça au cours de l'émission. On devait avoir un invité, mais finalement, on ne l'aura pas.
Oui, le responsable du festival du film chrétien qui va se tenir à Montpellier à partir de samedi.
Oui, mais j'ai décidé qu'on n'en parlerait pas finalement, puisque voilà ils ont pas répondu à nos sollicitations. Et puis après, je pensais en avoir un autre, et pareil, il est injoignable. Donc voilà, c'est une émission sans invité aujourd'hui.
Cinérama sur Divergence FM.
L'amour dure 3 ans, alors c'est le meilleur film de Frédéric Becbédé. C'est ainsi qu'avance la promo du seul film, finalement, de Frédéric Becbédé, qui recycle avec cette comédie romantique son roman au titre éponyme, sorti il y a quelque temps. Roman qui faisait suite à son divorce, donc douleur, pessimisme, mélancolie, de quoi se moquer des statistiques et de faire de sa propre expérience une règle. Si L'amour dure 3 ans est avant tout un roman autobiographique donc de Becbédé, le film n'en est pas une adaptation, non. Il s'agit bien là aussi de l'histoire de Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit. Il lui arrive les mêmes déboires que dans le roman, il divorce, mais Becbédé fait intervenir une mise en abîme, une distance, puisque le Marc Marronnier en question dans le film écrit véritablement un roman inspiré par sa dépression, un roman qui ne laisse pas insensible une éditrice qui doit publier son quota de jeunes auteurs. Vous reconnaîtrez Valérie Lemercier face à Gaspard Proust qui incarne Marc Marronnier.
Alors, j'ai lu votre manuscrit, L'amour dure 3 ans, j'adore le titre, est bien con. Bon, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais bizarrement, il y a un petit ton, hein, une petite musique. Je ne sais pas si c'est vraiment voulu, mais... Non, parce qu'on en reçoit beaucoup, hein, des romans de petite tête à claque comme ça. Mais là, dans l'ensemble, ça se tient. Je ne suis pas sûre que la forme soit vraiment votre priorité, hein, mais bon, c'est ça qui est vivant. C'est un chouï prétentieux, il faut muscler un peu le deuxième tiers, mais je veux le publier pour la rentrée. Eh oui, c'est toujours bien pour nous d'avoir des premiers romans parce que on a des quotas à remplir.
Vous n'êtes pas obligé, hein.
Non, ça c'est mon verre d'eau. On repose. Ah. Merci.
Eh oui, le Marc Marronnier est un peu décontenancé. Alors voilà déjà un exemple de saillie autocritique dont est capable Becbédé, qui relativise ainsi son propre succès de librairie. Mais ça ne s'arrête pas là, car cet écrivain qui a toutes les difficultés à se remettre de sa séparation va quand même rencontrer une femme qui va devenir sa maîtresse. Alors pour corser le tout, elle est la compagne de son cousin dont il n'a que faire. Et pour compliquer les choses, il ne lui a pas dit être l'auteur du livre « L'amour dure 3 ans » écrit sous un pseudonyme. Et c'est reparti pour un exercice où Becbédé se joue de son image. On va entendre cette fois-ci Louise Bourgoin, la maîtresse en question, impeccable.
Tu sais ce livre-là
Ah ouais, les filles du L en parlaient l'autre jour. Quelle ringardise, cette espèce de pessimisme beau. En plus, Féodor Belvédère, pour qui il se prend ce mec?
Tu l'as lu?
J'ai pas pu finir. C'est de la merde. Du Sioran de supermarché. De toute façon, les Russes sont tous des machos.
Alors, Sioran était roumain. Non, mais moi, je comprends que ce soit un Russe qui écrive des trucs lyriques comme ça. Et puis c'est vrai, il y a une étape à franchir au bout de 3 ans.
Tu vas pas me dire que tu crois en cette théorie d'adolescent attardé bobo à la cour? Mais le débile qui a écrit ça confond désir et amour.
Mais c'est un bon sujet de livre. On m'en a dit beaucoup de bien. Hein.
Non, non.
Vraiment.
Logoré de pauvres branleurs immatures, je t'assure, aucun intérêt. Vraiment.
Ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Ça doit être le genre de connard qui est capable de faire l'amour sans sentiment. Truc. On n'a pas un train à 16h52?
Ben voilà, vaut mieux changer de discussion. Voilà donc comment Becbédé se moque de lui-même, ado attardé, immature, bobo. Alors ces deux-là, ce couple, se sont déjà rencontrés, désirés, il ne leur reste plus qu'à se chamailler, s'étriper, et on s'en doute, comédie romantique oblige, à se retrouver. Il n'y a rien de bien nouveau dans cet exercice cinématographique. On effleure le sujet pour tenter de distinguer désir, amitié, amour et sexe. On tourne autour du pot pendant les 1h30 que dure le film. Dans la forme, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'exploitation des SMS directement sur l'écran, déjà vu, est bien mieux exploitée dans l'exercice de l'État, sorti il y a peu. L'utilisation de clones du personnage dans une même scène, bien exploitée dans La Cité des Enfants Perdus. Alors, les soldats de Star Wars, ça compte pas. Hein. On retiendra surtout le bavardage, des situations comiques, les saillies ironiques et l'histoire d'amour devient quasiment anecdotique. Je comparerais presque Becbédé à Edouard Baird puisque les deux hommes peuvent nous emmener dans un monde de dérision, à ceci près que Edouard Baird se décale de son temps et semble animé d'une joie comique, véritable, tandis que Becbédé semble bien se trouver dans le présent et l'étude de mœurs qu'il propose s'apparente à du cynisme. La joie comique, on oublie.
Elle, épilation totale.
Celle-là, on dirait chat de buisson.
Ouais, avec plein de mauvaises herbes. Alors que celle-là, fraîchement tondue de ce matin. Elle a juste laissé la petite languette, comme sur le flambi.
Ouais, non, ça c'est limite marais Poitevin, hein, avec le bouillon de culture et...
Là, à gauche, la mère, je dirais jardin à la française, et la fille, abricot.
Non, non, la fille, elle est plus en abricot, là. Elle est en pelouse ou en green de golf.
Abricot, je t'ai dit.
Non.
Et celle-là?
Jean-Georges, c'est un homme.
Et alors? Il y a des hommes qui se rasent la chatte, pas vous?
On l'a reconnu, il y a Joe Starr, un pote du personnage, un second rôle qui changera jusqu'à la surprise. Et son personnage est bien exploité par Becbédé qui n'aura pas manqué son coup publicitaire à peu de frais, du bouche à oreille. Ah mais si, c'est là où Joe Starr joue un... Eh bien vous le verrez, si ça vous intrigue, vous attendrez qu'un spectateur en manque de critiques mordantes sur les trentenaires parisiens ne prenne son ticket pour L'amour dure 3 ans. Alors même si ça n'est pas un grand film et qu'il ne passera pas l'épreuve du temps, hein, il est très marqué dans notre société actuelle, ça permet de se faire une bonne tranche de rire tout de même, sans qu'on puisse affirmer que le rire dure 1h30. Et L'amour dure 3 ans qui sort aujourd'hui, donc réalisé par Frédéric Becbédé avec Louise Bourgoin, Gaspard Proust, et Joe Starr est projeté au CGR et au Gaumont à Montpellier.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Allez, on entame la première partie d'une sorte de palmarès. Hein,
oui, donc je ne sais pas si L'amour dure 3 ans fera date dans le paysage cinématographique en 2012, mais en tout cas, il est temps pour moi maintenant de vous parler un petit peu des films qui, moi, m'ont marqué en 2011. Donc on va faire ça en deux parties. Je vais commencer par le meilleur, puisque c'est vrai que j'ai vraiment tendance à trop aimer les films. Donc nous allons commencer par les films les plus réussis de l'année, à savoir que les films les plus réussis sont pour moi ceux dont j'ai le... préférer la mise en scène, la direction d'acteur et la photographie, c'est-à-dire uniquement les qualités formelles. Mmh. Alors il y a eu Mélancolia de Lars von Trier, parce qu'il n'y avait vraiment que lui pour réussir un film qui parle de dépression et de fin du monde. Il y a eu Pina de Wim Wenders, un film de danse onirique qui aura d'ailleurs largement séduit les novices en la matière. Et Drive, une réalisation impeccable, un acteur aussi mutique que charismatique, la meilleure musique de film de l'année, ça tout le monde est d'accord, et un scénario hollywoodien un peu abruti que le réalisateur est tout de même parvenu à sublimer sans dévaluer le film de son potentiel de divertissement.
Eh bien, moi, je vais peut-être en profiter pour faire les miens. Alors, moi, j'ai eu du mal à en faire trois, à en choisir trois. Mais j'ai quand même mis The Tree of Life de Terrence Malick, ex aequo avec Mélancolia de Lars von Trier. Effectivement, parce que c'est deux films un peu catastrophes, quoi. Enfin, voilà, enfin, sur la fin du monde. Même si The Tree of Life n'est pas vraiment sur la fin du monde, mais sur le monde métaphysique. Et puis, j'ai choisi La Casa Muda de Gustavo Hernandez, film uruguayen, qui s'appelle aussi en anglais The Silent House, donc film de genre quand même, tourné caméra épaule. Et je salue ce film parce que déjà c'est un film uruguayen et qu'on n'en voit pas tant que ça, et puis qu'il est tourné avec très peu de moyens, caméra épaule, c'est quasiment un plan séquence, enfin en fait je pense que c'est bon, c'est un arrangement avec le plan séquence, il doit y avoir des petits trucages, mais ça apparaît comme un plan séquence d'1h30, et je trouvais que formellement en plus il y avait beaucoup beaucoup de belles choses. Tu parlais justement de cette forme au cinéma, et on a tendance parfois à voir des choses très très classiques. Et là, dans ce film, La Casa Muda, on voit des rapports entre le hors-champ sonore, les gros plans qui changent ensuite avec un plan d'ensemble, les arrière-plans, les premiers plans. Enfin, il y a vraiment une vraie recherche formelle dans ce Casa Muda. Alors, le problème, c'est que ça fout les jetons. Et donc, tous les spectateurs ne seront pas forcément sensibles à ce film. Voilà. Si vous avez peur, n'allez pas voir La Casa Muda, qui est disponible en DVD. Et puis moi, je terminerai par Police de Mai Wen, ex aequo avec un autre film français, L'exercice de l'État de Pierre Scheuler, qui est encore projeté d'ailleurs au cinéma Utopia. Voilà, donc je me suis dit, il faut quand même mettre des Français. Enfin, c'est...
Justement, j'y viens parce que donc, j'ai dissocié deux catégories, les films les plus réussis et les films pour moi les plus marquants, qui ne sont peut-être pas parfaits dans la forme, mais qui vont quand même énormément marquer. Alors par ordre de sortie au cinéma, donc en 2011, il y a eu La Polonite de Bertrand Bonello, un film qui concilie prostitution et féminisme, c'est possible. Le tout porté avec grâce par une distribution féminine hors pair. Il y a eu Shame, un portrait sans concession de la solitude contemporaine à travers un homme qui ne vit que par son addiction au sexe, qui est sorti assez récemment. Et donc Police, qui était pour moi une succession vraiment de scènes très très intenses et en même temps de portraits assez bien sentis d'hommes et de femmes.
D'hommes et de femmes, avec un vrai sujet, les mineurs, la sexualité même des mineurs, et puis un film sur le travail d'équipe de ces policiers, donc de la brigade des mineurs. Donc ça, c'était la première partie.
C'était ma première partie.
Après, on fera les flops un peu plus tard dans l'émission. Et on va écouter, bien, pour le coup aussi, la première partie du panorama, cette fois-ci sonore. C'est-à-dire qu'on va écouter donc des petites bandes annonces qui vont être entremêlées et qui correspondent aux films qui sont sortis. Alors, j'ai un peu triché, en fait, puisque c'est les films qu'on a chroniqués en 2011. Donc, certains étaient déjà sortis en 2010. Ce sera le cas du Nom des gens et de Faites le mur de Banksy qui vont débuter ce premier extrait du panorama 2011.
Je vous dis,
je meurs d'envie de faire comme si tout ça n'avait jamais vraiment eu lieu.
Regarde lui par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP de Pas-de-Calais. T'imagines ? Comment on peut être jeune et UMP ? Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. C'est pas génial ? T'as vu ? Lui, c'était un vieux boursicoteur de merde, et maintenant il fait des crêpes sarrasin. Lui, il était président d'un club de quad, maintenant il fait de la capoeira. Bon, tu vois, évidemment, le temps de conversion, il varie selon le degré de connerie du gars. Pour un mec du FN, il me faut bien au moins 10 jours. Alors que pour un fan de Bayrou, en une après-midi, c'est plié.
Mais pourquoi le quad ?
Pourquoi le quad ? C'est des fachos ? Tu savais pas ? Le quad, c'est super facho.
J'en ai ras le bol. Ça fait trop longtemps que ça dure.
Vous avez signé avec nous. On est les seuls à savoir que vous êtes un agent. Vous l'arrêtez ? Vous serez plus qu'un avocat qui bosse pour le milieu, et on vous bouclera peut-être pour ça.
Ah ouais ? Ah ouais ?
Il y en a très peu qui arrivent à s'échapper. J'attends depuis si longtemps un type comme toi. Un gaillard bien costaud avec une volonté à toute épreuve. Mais pour aller où ? On peut pas aller à l'ouest.
Au 1er janvier, qui va s'arrêter pour rentrer dans les commerces frontaliers ? Qui ?
Bon, allez, ça va. On va se débrouiller tout seul comme des grands. Et on boira un verre à votre santé chez le notaire avec vos 5%.
Ne le prenez pas comme ça.
C'est ça, c'est bon. Là, c'est faire du temps avec vous. Merci, au revoir.
Tu dis comment on fait maintenant que tu l'as viré ?
Faut qu'on le vende à un pigeon. Quelqu'un qui est pas au courant du passage à l'Europe. Quelqu'un comme toi, quoi. Qui lit pas la presse, qui écoute pas la radio, qui regarde juste la télé, mais sans comprendre ce qui se dit, hein ?
Pourquoi perdre mon temps à vous écouter ?
Mais parce que j'ai une voix !
Votre premier discours en temps de guerre.
Quel que soit le résultat, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait.
Enfin, d'ordinaire, tu ne te soucies ni des uns ni des autres. Et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles.
Bonjour.
Pour Jean-Louis, je ne suis jamais sortie de ma province. Lui, ce qu'il aime, c'est ce qui brille. C'est les parisiennes, les élégantes.
Je me suis trompée. Vous n'êtes pas un patron comme les autres.
Depuis 4 ans que je te vois danser, je t'ai toujours vu t'acharner à réussir tous les pas à la perfection, mais pas un seul instant je t'ai vu te lâcher. Jamais. Toute cette discipline, pourquoi ?
Je veux être parfaite.
Quoi ?
Je veux être parfaite.
La perfection, c'est autre chose que la maîtrise. Il s'agit aussi de savoir s'abandonner. Se surprendre soi-même pour surprendre la salle, se transcender. Et il y a très peu de gens qui ont ça en eux.
Je crois que j'ai ça en moi.
Tu m'as mordu ? Non mais attends, j'y crois pas. Tu m'as mordu ?
Pardon. Pourquoi tu m'as planté hier soir ?
J'ai voulu te téléphoner, j'allais le faire, mais j'ai pas pu.
Parce que t'as perdu le combat ?
Peut-être, oui, parce que j'ai perdu. Il faisait 10 kilos de plus que moi, j'aurais pas dû combattre.
Pourquoi t'as accepté ?
On m'a dit que je le battrais.
Qui ont ?
Ma mère et mon frère.
Je t'interdis de t'approcher de moi, de Maria ou de son fils.
Mon enfant, mon petit.
Et c'est le fameux La Casa Muda. Voilà, The Silent House, extrait de la bande-annonce. On entendait les petits cris de femmes, effectivement, puisque c'est un film qui fait peur, hein, comme je l'ai dit, mais un vrai bon film à voir en DVD. C'était la première partie de ce panorama sonore 2011.
Nous allons enchaîner avec Parlez-moi de vous, de Pierre Pinault.
Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Mélina pour Avouer librement.
60 ans, vous avez encore des choses à vivre.
Vous pouvez encore vivre une sexualité très épanouissante.
Vous rencontrez un jeune amant, vous baisez toute la journée.
Oui.
Bien sûr.
Merci Mélina.
Au revoir Josiane.
Au revoir.
Au record d'audience.
Qu'est-ce qui te prend ?
Et ça tombe particulièrement mal au moment où on investit dans une campagne de pub autour de votre anonymat.
Est-ce que vous vivez seule ?
Oui.
Et est-ce que vous êtes heureuse ?
C'est pour le bénévolat ?
Oui, peut-être.
Alors c'est par là. Tiens, tue-toi, c'est plus pratique.
Est-ce qu'il y a une certaine Joëlle qui travaille avec vous ?
Ah oui, Jojo, tu la connais ?
Salut, cette nouvelle ?
Oui. Est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose sans être en contact avec les vêtements ? Parce que je suis allergique à la poussière, aux fibres et aux matières plastiques.
Ah mais les dorés, il vous reste plus grand-chose.
M'asseoir. Ah non.
Il faut se détendre 2 secondes là.
Mais je ne suis pas détendue. Je n'ai pas besoin de me détendre.
Mais écoutez, jeune homme, si mademoiselle veut pas vous parler, vous lui foutez la paix, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'as, toi ?
On vous a jamais dit que vous aviez la même voix que la conne de la radio ?
Ah bon ?
Alors Claire est une célèbre animatrice de radio à la voix suave dont le succès n'a d'égal que le mystère, un petit peu comme moi, tu auras noté. Adulée mais maladivement solitaire, elle anime chaque jour une émission où elle écoute et conseille les auditeurs en proie au malheur de la vie, puis retourne s'enfermer dans son classieux appartement du 16e. Son malaise vis-à-vis des gens est en réalité dû à l'abandon dont elle a été victime enfant, mais lorsqu'elle parvient à retrouver sa mère biologique, ses névroses deviennent autant d'obstacles qui l'empêchent de la rencontrer. Parlez-moi de vous est le premier film de Pierre Pinault qui avait rencontré Karine Viard sur le tournage des Enfants du siècle, où, ironie du sort, il était assistant en régie, astreint à la seule tâche d'aller chercher la comédienne dans sa loge, comme quoi l'ascension, même dans le cinéma français, c'est possible. Alors en plus de la maîtrise de sa mise en scène, le film instaure une ambiance teintée de surréalisme grâce à d'excellents effets sonores, ce qui, certes, est la moindre des choses pour un film qui a comme toile de fond le monde de la radio. Karine Viard évolue dans un décor évoquant sensiblement l'univers de Lynch, tout en contraste avec l'univers France profonde auquel elle se confrontera en rencontrant sa mère. Car sa génitrice n'est pas exactement du même monde qu'elle, elle se fout un peu des liens du sang et elle a surtout un petit-fils qui n'est pas insensible au charme de l'animatrice et qui va vite devenir le grain de sable glissé dans les rouages bien huilés de sa vie. Le scénario joue autant sur les ressources comiques de Karine Viard que sur son potentiel dramatique. Sans jamais tomber dans la caricature, elle parvient à rendre vivant un personnage borderline, pas vraiment crédible mais très attachant. L'actrice est de plus au sommet de son art et de sa beauté. C'est d'ailleurs un vrai plaisir aujourd'hui que de voir une comédienne de 45 ans qui peut encore bouger ses sourcils. Face à elle, Arnaud Duvauchel, dont le rôle du petit-fils a toujours le charisme d'une huître, il n'est pas vraiment à la hauteur de sa partenaire. Espérons qu'il retrouvera très vite un rôle de flic, muet de préférence, ça serait mieux. C'est dommage car le film aurait pu devenir une sorte d'intouchable assez réussi, toute proportion gardée, dans le bon sens du terme, car en dehors du portrait de femme, le film est aussi l'histoire d'une rencontre entre deux personnes de classe sociale différente, l'une étant enfermée dans sa solitude et l'autre cherchant à l'en sortir, le schéma donnant lieu à toutes sortes de situations plus ou moins caustiques. Sauf qu'ici, l'échange sera vite avorté et que la réalité viendra rattraper de la meilleure manière un scénario qui ne se laisse pas glisser dans la facilité. Donc, parlez-moi de vous, c'est plutôt pas mal du tout, c'est très bien joué, je vous le conseille. Et ça ne passe pas au Diago, ça passe au Gaumont, peut-être au Royal, je ne sais pas.
Oui, au moins au Gaumont en tout cas, parce que c'est là que tu l'as vu hein, d'ailleurs.
Voilà.
Et c'est une bonne description de la radio finalement ou pas?
En fait, on voit très peu le monde de la radio. Ah oui. C'est vraiment juste en toile de fond, c'est un contexte, mais on ne voit absolument pas l'univers de la radio.
Merci Marine. Et on passe assez vite finalement du premier extrait du panorama sonore 2011 au deuxième extrait.
Je peux vous demander un petit service?
Bah oui, bien sûr.
Voilà, c'est à cause des autres femmes qui sont en formation. Si vous pouvez, par exemple, prendre un accent.
Prendre un accent?
Si ça vous gêne pas.
Non.
Parce que vous savez, si elle voit que vous êtes française, ça va faire bizarre.
Ah. Bah oui, mais je pourrais venir d'où, à votre avis?
Comme vous voulez. Portugal, des pays de l'Est, Lituanie, Ukraine, comme...
Tak. Postrenyaka.
Voilà, c'est...
Vous n'avez jamais été enceinte?
J'ai eu deux belles histoires, mais qui sont restées stériles. Stériles.
Et vous?
Non, moi j'ai eu un peu plus de partenaires.
Je parlais grossesse, hein.
Un peu plus, c'est-à-dire?
J'aimais bien faire la fête, j'étais...
Une bonne vivante, on a compris. Hein.
Papa nous a quittés alors?
Il nous a pas quittés. Il valait mieux qu'on ne vive plus ensemble.
Père. Mère.
Le navigateur.
Tu seras grand avant que cet arbre soit adulte.
Il faut une volonté de fer pour s'en sortir dans ce monde. Allez, cogne-moi. Cogne-moi.
Je n'ai pas choisi la politique, c'est la politique qui m'a choisi.
On n'est pas amis. Vous êtes mon client. Je suis votre avocat.
mon avocat.
Si je tombais amoureuse de toi, qu'est-ce que tu ferais?
N'importe quoi.
Et si grâce à un simple comprimé, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez? Un cachet par jour et mes capacités sont devenues illimitées. J'ai appris le piano en 3 jours. Les maths sont devenues utiles et fun. Je savais tout sur tout.
Grazie mille.
Depuis quand tu parles italien?
Et si vous aviez la possibilité de devenir une version parfaite de vous-même?
Oui, concierge.
C'est Cyril, je voudrais rentrer chez mon père.
Quel Cyril?
Cyril Catoul, mon père habite au 5e.
Il n'habite pas ici, il est parti, hein, moi.
Mais il y a son nom sur la sonnette.
Ton père n'habite plus là, il est parti. Faut que t'acceptes.
On a mesuré le spectre électromagnétique dans toute la maison. Fil électrique, radio.
Je ne crois pas que ce soit un problème de fil mal isolé.
Je veux qu'on s'en aille. Je veux partir de cette maison.
Vite.
C'est quoi? Montrez-moi.
Voilà, c'était la deuxième partie du panorama consacré au film de 2011. J'espère que vous avez reconnu quelques petits films que vous êtes allés voir en salle. Et maintenant, on va parler donc d'un film de 2011 qu'on n'écoutera pas d'ailleurs au niveau sonore dans ces panoramas, c'est The Artist.
Oui, donc en ce début d'année, d'autres palmarès bien moins prestigieux que le nôtre émergent tout de même ici et là. Janvier étant donc le début d'une déferlante d'awards, de globes et de nominations en tout genre. Alors la période des récompenses internationales a déjà commencé, avec cette année la particularité d'avoir à l'honneur un film français, à savoir donc The Artist, qui pourrait conjurer ses résultats en salle quelque peu décevants en recevant une flopée de prix outre-Atlantique. Alors cela réussit quand même plutôt bien au film pour le moment, qui a remporté les Critics' Choice Awards, le prix Lumière 2012, c'est-à-dire le prix décerné en fait par la presse étrangère au film français, et il se retrouve même en tête des nominations pour les BAFTA, l'équivalent britannique des Oscars. Nominé également 6 fois aux Golden Globes, The Artist s'est fait dépasser par The Descendant, le prochain film de George Clooney, mais il s'en est tout de même sorti avec les Golden Globes du meilleur acteur comique, du meilleur film musical et de la meilleure musique, malgré le scandale créé par l'actrice Kim Novak qui a accusé le film d'avoir plagié la musique de Sueur Froide. Bref, The Artist sera bien sûr présent au César le 22 février, mais le film attend surtout les Oscars, car aussi improbable que cela puisse paraître, il serait en pole position pour remporter la statuette du meilleur film. Si cela vous paraît surprenant pour un film français, permettez-moi de vous expliquer, premièrement, le fonctionnement de cette célèbre institution par une courte interlude que je nommerai les Oscars pour les nuls. Le jury des Oscars est en réalité composé d'un grand nombre de votants, à savoir plusieurs centaines de personnes par domaine récompensé, la réalisation, les effets spéciaux, etc. Ces jurys sont recrutés parmi les gens de même profession, ainsi les acteurs seront jugés par des acteurs et non par des coiffeuses. Les lauréats seront élus, comme au présidentiel, sur 2 tours de scrutin. Les membres du jury votent une première fois pour le corps de métier auquel ils appartiennent afin de déterminer les 5 nominés, puis tous, sans distinction, votent ensuite pour désigner un seul vainqueur. L'Oscar du meilleur film, en revanche, a la particularité d'être choisi par tous les votants, acteurs, réalisateurs, producteurs, toutes catégories confondues. Voilà, j'espère que j'ai au mieux synthétisé la page Wikipédia. Alors donc revenons à The Artist. Lors de sa première projection à Cannes, il fut acheté par Harvey Weinstein, riche producteur grassouillet venu de Los Angeles, véritable représentation du producteur américain à l'ancienne, fourni avec le costard et le cigare. Et par la nationalité donc de ce producteur, le film devient américain d'adoption. Heureusement pour lui, car Weinstein est connu pour faire gagner des Oscars aux films qui seraient plutôt considérés comme des outsiders à coup de manipulation médiatique et de pot de vin. On lui doit les triomphes de Shakespeare in Love, du Patient anglais ou du Discours d'un roi l'année dernière, qu'il était parvenu à faire gagner contre Black Swan en créant quelques scandales plus ou moins magouillés autour des scènes de danse soi-disant doublées de Nathalie Portman. Il a donc parié cette fois sur un film français en cachant soigneusement son origine, fort de l'absence de dialogue et de l'histoire située durant l'âge d'or hollywoodien. Le but étant de rendre populaire également Dujardin aux États-Unis et de séduire les votants malgré les handicaps du film, tourné en noir et blanc, muet, mené par deux acteurs français inconnus, The Artist avait bien besoin d'une campagne massive de séduction à l'heure où les Américains sont plutôt séduits par la silicone sur fond vert et en 3D. Il a ainsi soudoyé Géraldine et Dolores Chaplin pour qu'elles promeuvent The Artist auprès des professionnels et du grand public. Il a fait tourner le film dans tous les festivals américains pour le faire connaître et il a envoyé Jean Dujardin faire le tour des talk shows américains. On lui demande de faire des claquettes et d'imiter toutes sortes d'animaux. Et donc, grâce à tout ça, eh bien, nostalgique de son propre cinéma, Hollywood pourrait bien consacrer au final un film totalement français, uniquement grâce à la magie de la communication.
Cinérama.
Ou est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Voilà, Dans la tourmente, film sorti le 11 janvier, réalisé par Christophe Ruggia avec Clovis Cornillac, Mathilde Seigné et Yvan Attal. Nous sommes dans la région de Marseille, autour des raffineries de l'étang de Berre, une zone ultra-industrielle avec un monde ouvrier comme décor, c'est le point de départ d'un polar social. C'est l'histoire d'une usine dans laquelle travaille Franck, interprété par Clovis Cornillac, une usine qui va délocaliser, remballer les machines le temps d'un week-end pendant que les ouvriers font la fête. Mais ça n'est pas l'histoire d'une lutte syndicale pour autant. Même si elle reste en fond, c'est avant tout l'histoire d'un coup. Une oreille qui traîne, on entend parler d'un coffre avec 2 millions d'euros, qui lui aussi devra faire partie du voyage. Et hop, les têtes tournent, calculent, envisagent. Mais du coup, comme ça, ça ne se fait pas tout seul. Franck compte sur les autres, ses collègues bientôt sur la paille, et puis Max, un type qui est déjà parti avec le précédent plan social.
Tiens, le plan, les clés de la réserve, faut que vous soyez au minimum une dizaine. Attends demain matin, passe un coup de fil anonyme au syndicat, préviens-les pour les camions. Et fais ce que t'as à faire. Et pour le reste, pas un mot à personne.
Ce sera seul dans ton cul.
Non.
Je suis le véritable de mon père.
Moi aussi, j'ai un flingue.
Attendez, mais vous êtes dingue, là. Mais il a raison, c'est trop dangereux.
T'es obligé de chercher des flingues, si c'est ça qui t'inquiète.
Je plaisante.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est juste pour leur faire peur, qu'est-ce qu'ils en sauront?
Oui. C'est maintenant, là.
Qu'est-ce que vous faites? Venez danser un peu, Franck.
C'est bon, chérie. On discute. 5 minutes, s'il te plaît. 5 minutes. Hein?
Viens, je vais danser avec toi. Hey, j'aurais jamais dû te le présenter, celui-là, c'est un sati. Ça t'apprendra.
Voilà, alors donc la chanson, comme tu le disais Marine, pendant que tu écoutais cet extrait, effectivement, est aussi repris dans La Vérité si je mens, mais là on est dans un autre monde. L'intrus dans cette scène, c'est Mathilde Seigné qui interprète la femme de Franck, qui n'en peut plus de ses secrets, qui sent que quelque chose se trame dans son dos. Mais cette relation n'est qu'un élément de l'intrigue qui nous trimballe d'usine en terrain vague, en déchetterie, en ville aussi, et puis dans les calanques. Le film est rythmé, la réalisation nerveuse avec une caméra agitée qui retranscrit bien l'intensité des scènes, mais le scénario aurait pu gagner à être plus simple. Alors, il y a de l'argent à prendre. Une fois qu'il est pris, il faut assumer les bavures, assumer la course des flics qui ne cherchent pas seulement l'argent, mais quelque chose de bien plus important qui se trouvait dans le coffre, des documents qui impliqueraient des hommes politiques avec des histoires de vente d'armes et de pots de vin. On sent là l'opposition entre des pauvres qui prennent l'argent où il est et qui sont recherchés comme des pestiférés de la société, et puis des riches qui non seulement ont de l'argent, mais parviennent à en détourner pour en avoir toujours plus, quitte à avoir du sang sur les mains. Voilà l'arrière-pensée morale du film de Christophe Ruggia. Dans la tourmente, fait autant référence sur le fond à la décision de voler ou non un bien qui ne nous appartient pas, et sur ce point c'est surtout le personnage de Mathilde Seigné qui aura des scrupules et qui fera de la résistance, et puis sur la forme, dans la tourmente fait référence à la course poursuite contre la police. Alors Christophe Ruggia maîtrise bien son sujet, même si à mon sens il aurait pu dégraisser un peu le scénario. Du côté des acteurs, Cornillac est toujours excellent en prolo, Seigné sort de son camping et c'est pas plus mal. Quant à Yvan Attal qui jouait le riche victime d'un enlèvement dans Rapt de Lucas Bellevaux il y a quelque temps, incarne parfaitement le personnage de Max, type perdu en pleine rupture sociale qu'il ne faut pas prier pour prendre l'argent aux riches. Et à noter que Yvan Attal n'était pas prévu au départ sur le tournage et il a accepté 15 jours avant le début du tournage. Donc voilà. Et donc Christophe Ruggia s'était auparavant illustré avec Le Gonne du Chaba, une adaptation d'un roman autobiographique d'Azouz Begag, ancien ministre, un roman qui avait bénéficié d'une vraie adaptation cinématographique. Et là, c'est un peu le cas, c'est du cinéma. On peut aller voir dans La Tourmente qu'il faut d'être aussi réussi que La Raison du plus faible en 2006 de Lucas Bellevaux, dont le sujet était approchant, ne manque pas de rythme et de style. Et il est resté qu'une semaine au Gaumont, où j'ai pu le voir, et maintenant il est projeté au Cinémistral de Frontignan, au CGR de Latte, et puis du côté de Lunel, à l'Athénée.
Cinérama sur Divergence FM.
Et oui, c'est la deuxième partie du palmarès.
Oui, voilà, maintenant on va parler de ce qui a été, peut-être pas tout de suite les flops, mais du moins ce qui a été un petit peu moins bien. Alors donc, dans la catégorie, on en a un peu trop parlé pour ne pas être déçus. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'ils étaient complètement nuls. J'ai quand même nommé La Guerre est déclarée, donc une grande vitalité, de bonnes intentions, mais personnellement je trouve que ça ne vaut pas la peine de faire là que 30 minutes pour aller le voir. The Tree of Life, que j'avais bien aimé, mais... Bon, qui est quand même un gloubi-boulga métaphysico-intimiste, plein d'interrogations existentielles, d'images cosmiques. Je pense qu'il faudrait que je le revoie vraiment pour avoir un avis tranché sur ce film, et encore, je ne sais même pas si c'est vraiment possible. Et bien évidemment, même si c'est un petit peu faire honte au film précédent que de le citer dans le même triptyque, Intouchable, qui a bien occupé 16 millions de Français et leur a évité de penser à la crise et aux réformes pendant au moins 2 mois. Donc ensuite on va passer aux films les plus mauvais. À noter quand même qu'il y a eu un pic en novembre 2011, juste avant les fêtes. Heureusement je me suis un petit peu préservée, je n'ai vu que 2 films vraiment à vomir cette année. Il y avait Le Chaperon Rouge de Catherine Hardwicke, c'était ma première chronique d'ailleurs ici, j'ai commencé fort. Alors, c'est une version adolescente faussement sulfureuse du célèbre conte, où les effets spéciaux sont à peu près aussi ratés que les opérations de chirurgie des actrices. Il y a eu Bon à tirer également, des frères Farrelly, une comédie dans laquelle l'humour scatologique paraît presque plus léger que la morale puritaine qui vient plomber complètement tout le scénario. Voilà, ces 2 films étaient extrêmement mauvais, ils sont sortis en DVD, ne les achetez surtout pas.
Ah, t'en as pas trouvé un troisième?
Comme je dis, je me suis un petit peu préservée quand même, j'ai pas été en voir trop de si mauvais.
Bon, je vais allonger ta liste. Hein. Pour moi, ça a été alors dans l'ordre de leurs apparitions sur les écrans. Les Yeux de sa mère de Thierry Cliffat avec Catherine Deneuve, Géraldine Payas et Nicolas Duvauchel. Scénario complètement artificiel. Un été brûlant de Philippe Garrel quand même avec Bellucci et Louis Garrel. Là, c'était pour moi un petit vide intersidéral sur le particularisme bourgeois. Et Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine avec le duo Poulvord d'Isabelle Huppert. Une histoire improbable, une caricature de comédie avec énormément de clichés. Et du coup, ça reste la pire comédie, je crois. C'était même moins bon que Rien à déclarer de Danny Boone.
Ouh.
Ah oui.
Ah,
il y avait aussi Poulvord d'ailleurs. Hein. Oui. On continue avec le panorama. C'est cette fois-ci la 3e partie. Et je crois qu'on va entendre La guerre est déclarée, que tu as mis dans les
déceptions.
Des déceptions. Mais on va aussi entendre Drive, que tu as mis dans les grands vainqueurs.
J'ai peur de cette stupide planète.
Elle ne va pas nous heurter.
Tu me le promets. Il n'y a de la vie que sur la Terre. Et plus pour longtemps.
Moi, je crois que t'en sais rien du tout.
On était bien. On était heureux.
Oh, Superman.
Attends, j'ai hâte qu'on soit à la maison.
Oh, John.
Pourquoi c'est tombé sur nous?
Oh,
pourquoi Adam?
Parce qu'on est capable de surmonter ça.
J'ai peur que la planète nous heurte quand même.
Qu'est-ce qui se passe?
Vous êtes bien, monsieur Maréco?
Oui, c'est moi, pourquoi?
Commissaire Durie. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez une commission rogatoire?
Fabrice Burgot, juge d'instruction.
Maman!
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement?
Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans.
Mais lâchez-la!
Vous me donnez une heure et un lieu, je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi. Je suis là. J'interviens pas pendant le braquage. Je porte pas d'armes. Je conduis.
Moi, je suis pas pour toi, mais je peux pas vivre sans une femme, hein. Une fois dans ma vie où j'étais seul, là, c'était terrible.
Frédéric vivait avec Angèle, une actrice de cinéma qui est tournée en Italie.
Ça te plaît?
C'est très beau. Je ne sais même pas si c'est très beau, je te demande si ça te plaît à toi. Ça te plaît pas?
Au-delà de toi, là, qui me font des biens, d'autres qui me font souffrir.
Les toiles sur lesquelles tu figures pas, elles te font toutes souffrir.
On va rester là toute ma vie.
T'as qu'à faire ça, hein.
Tu leur as parlé direct.
Calme-toi.
Ça te rappelle quelque chose?
Je me suis totalement investi dans mon métier. J'y ai mis le meilleur de moi-même. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, vous ne valez plus rien.
Les dernières législatives ont été un échec pour la gauche, mais le PS a progressé.
Moi, je vous dis que c'est la gauche qui va passer aux prochaines élections.
La gauche ne passera pas, moi, je quitte le pays.
Mais quitte-le, le pays.
Arrêtez-moi.
C'est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux.
Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux.
Il a fait quoi ton papa?
M'a gratté les fesses.
Ouais, tu pourrais demander aussi si t'es en dessous ou au-dessus du pyjama.
Ok.
Bonjour. Voilà, je vous présente Mélissa Zaya, photographe. Donc, je compte sur vous pour qu'elle se sente à l'aise.
Je vais peut-être pas vous faire faire tout de suite du viol ou du pédo.
C'est plus complexe que ça.
Bonjour madame, vous me présentez une pièce d'identité, s'il vous plaît?
Il pleure depuis tout à l'heure, moi je sais plus quoi faire, j'en peux plus.
Vous secouez souvent?
Bah oui.
Et comment vous expliquez que votre premier enfant, il a toujours été calme le soir et pas le deuxième?
En fait, le petit, je le branle pas tous les soirs, c'est pour ça.
Voilà, on terminait eh bien, ce troisième extrait du panorama des films 2011. Avec justement le film Police de Mai Wen qui pourrait être un vainqueur de César.
Oui, c'est même sûr.
C'est même sûr.
Oui, ouais. Oui, oui. Je pense, moi, je penche pour un prix d'interprétation pour Marina Foïs.
Ah.
Ouais, je le sens bien.
Tu oses, ah, tu paries.
Je le sens, là.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
Eh bien, on va maintenant enchaîner avec Une vie meilleure de Cédric Kahn. Alors, lorsque Yann rencontre Nadia, ils sont tous deux dans la même précarité. Lui est cuistot à mi-temps, elle serveuse. Ensemble, ils décident d'ouvrir un restaurant et souscrivent pour cela à des crédits revolving à la chaîne qui vont bien sûr noyer très vite leur projet et leur rêve d'une vie meilleure. Nadia décide de partir au Canada pour y travailler et laisse son jeune fils à Yann avant de disparaître. Commence alors la deuxième partie du film lorsque ce dernier est contraint d'apprendre à devenir père et se retrouve dans un taudis parisien grâce aux magouilles d'un marchand de sommeil.
Mon fils.
Il a quel âge?
9 ans et demi.
Elle est avant de la maison.
T'imagines ce qu'on peut faire ici? Là, tu fais un resto. Ouais, franchement, ça serait le rêve, un truc comme ça. Hein.
Comment on va faire pour l'apport?
Faut prendre des prêts à la consommation.
Voilà, merci, vous êtes propriétaire.
Refus l'ouverture, on n'est pas aux normes.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de blé.
Il y en a encore au moins pour 20 000 euros.
C'est délirant, votre situation. C'est complètement suicidaire.
Il y a mes patrons qui m'ont reparlé du boulot à Montréal. Je serai chef de salle là-bas, payé le double d'ici.
Tu me laisses tomber, là?
Tu as chez le mec qui propose du boulot, c'est ça?
Slimane, habille-toi, ça va! Je pars dans 3 semaines. Je voudrais te laisser Slimane un mois. Le temps de m'installer. Yann, dis à Slimane que je le fais venir dès que j'ai mon appart. Et je vous donne des nouvelles très très vite. Je vous aime, Nadia.
Entre les traites et les pénalités de retard, moi je m'en sors pas, là j'ai vraiment besoin d'une aide.
Vraiment, je peux pas.
Bah mais je fais comment, moi? Je vis où?
Pour trouver un truc pas trop cher dans le coin.
C'est pas le grand luxe, mais pour du provisoire, c'est nickel.
Est-ce que c'est toi qui as volé ses chaussures?
Non.
Je me fais chier la vie. À te faire à bouffer, à te laver tes fringues.
Alors écoute-moi bien, on est dans la merde, mais on vole pas, d'accord?
Je vais voir ma mère.
T'as envie de voir ta mère? Ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles! Elle a plus rien à foutre de notre gueule!
Quand j'étais petit, quand j'avais peur de quelque chose, je fermais les yeux et j'essayais d'imaginer comment ça va être après. Et en fait, je me rendais compte. donc c'était toujours mieux après.
Mais j'ai peur des poissons!
Ça valait le coup. Et là, ça vaut vraiment le coup.
Alors Cédric Kahn, réalisateur de L'Ennui et plus récemment du thriller Feu Rouge, explore ici un nouveau territoire cinématographique armé d'un scénario digne des frères Dardenne. Il utilise les codes du drame social pour raconter plusieurs histoires en un seul film. Poignant et totalement dans l'air du temps, Une vie meilleure gagne encore en puissance lors de la descente aux enfers des personnages dans les bas quartiers de Paris. D'une violence sourde et d'un réalisme douloureux, ces scènes évoquent au meilleur sens du terme « De battre mon cœur s'est arrêté » de Audiard avec ses promoteurs véreux dans un Paris délabré et clandestin. Cédric Kahn a voulu, selon ses dires, transcender le naturalisme par le récit et c'est en filmant les endroits les plus glauques de manière semi-documentaire qu'il a pu donner à ses personnages un décor suffisamment chargé pour s'exprimer de façon crédible. La ficelle aurait pu paraître un peu grosse si elle n'avait servi qu'à mettre en exergue les problèmes de surendettement avec cet exemple d'un couple naïf qui cède aux sirènes du crédit, mais on reste davantage centré sur le trio et sur son évolution que sur la dénonciation du système. Saisissant de naturel, les trois acteurs parviennent totalement à faire croire en leurs relations qui se construisent ou se délitent, y compris le très jeune Slimane Khétabi qui porte sur ses toutes petites épaules une lourde partie de la charge émotionnelle du film. Une vie meilleure a de surcroît le mérite d'être un bel écrin pour Leïla Bekti qui aurait davantage mérité un César pour ce rôle que pour la comédie Tout ce qui brille. Bouleversante d'émotions contenues et totalement en phase avec Guillaume Canet, elle crée une interaction aussi crédible que dramatique. La même histoire, filmée par des Américains, se serait sans doute transformée en tire-larme dans lequel les rôles principaux seraient passés de prolétaire à gravure de mode. Ici, le contexte de pauvreté actuelle et l'histoire d'amour tourmentée ne forment jamais un drame convenu. La fin du film parvient, comme souvent d'ailleurs dans le cinéma français, je trouve, à éviter le happy end en laissant toujours une touche d'ambiguïté qui demeure en suspens, nous rappelant, dans le cas présent, avec cynisme et lucidité, que l'argent ne fait pas le bonheur mais qu'il y contribue tout de même largement. Donc Une vie meilleure de Cédric Kahn avec Leïla Bekti et Guillaume Canet. C'est sorti cette semaine.
C'est encore projeté un peu partout.
Oui, et c'est visible partout parce que ça a fait un très bon démarrage.
Et même à Lunel, où vous nous écoutez sur le 93.9.
Cinérama sur Divergence FM.
Allez, on va faire vite. On va écouter cette fois-ci le dernier extrait du panorama sonore des films 2011 chroniqué ici.
Je vais vous raconter une petite histoire.
Je me rappelle la première fois où je vous ai entendu jouer. Je me suis dit que je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau de toute ma vie.
Il était le meilleur violoniste de son temps.
La belle affaire. J'en ai marre de m'occuper de tout.
Vous savez, en m'épousant, que j'étais un artiste.
C'est trop te demander de t'occuper de ton fils.
Ça va, de l'opium.
Ça va aller. On doit le faire. Et rien ne peut nous arriver de mal si ce qu'on fait est juste.
C'est une théorie personnelle parce que je peux facilement la récuser.
L'État, c'est devenu une misère. Une vieille godasse qui prend l'autre partout.
Il nous reste quelques prérogatives.
C'est quoi ce pays ?
Désolé. T'es un objet politique non identifié. T'as pas d'image. Parce que t'as pas d'histoire, ton histoire reste à écrire. Tu es flou.
Je suis flou.
Quoi ? Je croyais pas. Ce n'est pas ce que vous croyez, mais ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait qui compte.
Tu vois, moi, avec les femmes, je me focalise sur la quantité, pas la qualité. La qualité, je m'en fous.
Ah oui?
C'est ma façon à moi de participer à l'effort national. Je paye pas d'impôts, ça, d'accord, je paye pas d'impôts, mais je fourre du boudin. Alors ça, je peux te dire, j'en fourre du boudin.
C'est vrai qu'il y a parfois chez certaines femmes aux formes généreuses une matière... quelque chose de troublant.
T'as déjà baisé une grosse salope?
C'est la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé.
En capital, Madame Hersant a emprunté 21 000 euros, d'accord? Et aujourd'hui, Créfiref lui en réclame encore 18 200. Or, arrêtez-moi si je me trompe, mais en 3 ans, elle a déjà remboursé, rien qu'en intérêt, pénalité, assurance, frais de dossier et de relance, 22 127 euros.
C'est ce qui arrive quand on ne paye pas ses dettes, oui.
Il y a des équipes riches et il y a des équipes pauvres. Ensuite, il y a facilement 15 mètres de merde, et en dessous, il y a...
Bienvenue à Outland.
Mon boulot est d'emmener cette équipe jusqu'au championnat. J'ai besoin de plus d'argent.
On va pas rivaliser avec 120 millions de budget.
Il faut qu'on change d'approche.
Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent.
Bess !
Maman ?
Non, retourne dans ta chambre, chérie.
Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure.
Je me demande si je devrais pas essayer d'avoir une aventure.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, si vous ressentez un tel besoin...
Quoi? Ça fait un an que t'as pas fait l'amour?
C'est comme pas de ma faute si je tombe pas amoureuse.
Mais en attendant, tu pourrais faire quelques petites rencontres pour te faire un petit peu du bien.
J'ai pour toi une attirance qui n'a fait que grandir ces dernières années.
Mais quel genre d'attirance? Tu sais, depuis qu'on est ensemble, j'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre. Eh bien, peut-être que là, je vais coucher avec quelqu'un. Mais juste une fois, après, ça on va loin.
J'ai prévu du champagne, ça vous va?
Vous vous êtes dit que ça me ferait tourner la tête et que vous pourriez plus facilement abuser de moi, c'est ça?
Non, non, c'est que j'en avais, c'est tout.
J'aurais préféré que ce soit pour me faire tourner la tête.
T'approche pas d'elle, c'est la fiancée de Sanderson. Elle bronze toujours toute nue.
C'est une vraie beauté.
Je ne faisais que regarder le bateau.
Oui, on est tous montés dessus. C'est une merveilleuse expérience.
Mais j'aime pas prendre l'avion, tu sais.
Ah, fais pas l'enfant, t'as un passeport américain. T'as même pas besoin de tampon.
Suite à une altercation verbale, Zachary Cowan, âgé de 11 ans et armé d'un bâton...
Armé?
Michael, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Muni, doté, muni d'un bâton, ça va?
Muni, d'accord.
Jean!
Touche pas! Touche pas! Touche pas!
Qu'est-ce que vous attendez pour le mettre dehors? Il fait plus aucun effort.
Tu veux qu'il aille où?
Il est majeur et c'est pas votre problème.
Non, c'est pas notre problème, non.
Non, mais ils disent que je suis pas prête.
C'est pas vrai. Arrête, et puis en plus, ils disent ça tout le temps et pour tout.
Non, mais physiquement. Ils disent qu'elle est trop petite et qu'elle risque d'y rester.
Les pauvres sont condamnés à mourir. C'est le système qui veut ça.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu ne le sais vraiment pas.
Quel âge as-tu en temps réel?
28 ans.
Moi, j'en ai 105. En réalité, il y a assez de temps pour tout le monde. Certains ont 1 million d'années, les autres vivent au jour le jour. Pour quelques immortels, beaucoup doivent mourir.
Sur ton disque dur, il y a un tas de saloperies. C'est dégueulasse.
Lentement.
Je fais tout mon possible pour t'aider.
Et comment tu m'aides, hein? Tu débarques ici, et t'es un poids pour moi. Un fardeau. On s'en va d'ici.
On forme une famille, on doit prendre soin l'un de l'autre.
Hé,
hey,
Roméo!
Brandon, tu vas décrocher ce putain de téléphone!
Et on termine avec Shame, tout simplement, de Steve McQueen. Voilà, c'était la fin donc de ce petit panorama sonore. Il y avait beaucoup de sons du coup dans cette émission, et on passe tout de suite à l'agenda.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Alors, pour commencer, demain à Montpellier, le cinéma Diagonale, pardon, et la maison de Heidelberg proposent à 20h la projection du film À l'âge d'Hélène de Pierre Marais, suivi d'un débat. Toujours demain, mais à Metz.
Non, c'était aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, toujours aujourd'hui, mais c'est à Metz, le cinéma Le Taurus propose à 18h et ensuite le 20 à 21h la projection du film La clé des terroirs de Guillaume Bondin dans le cadre de la fête des vignerons.
Et demain, cette fois-ci, à Montpellier, Languedoc-Roussillon Cinéma et la médiathèque Fellini proposent à 18h la ciné-conférence consacrée à Agnès Varda et son film Sans toi ni loi, projection d'extraits, genèse et analyse du film, place dans l'œuvre de la cinéaste par Bernard Bastide, enseignant-chercheur et spécialiste de l'œuvre d'Agnès Varda. Et puis, ce même jour, donc demain, le cinéma Diagonale et les CMA proposent à 20h la projection du film Los Herederos, les enfants héritiers, d'Eugenio Polgowski, suivi d'un débat.
Toujours demain, il y a plein de choses à faire. Le Centre d'art La Fenêtre propose à 19h30 la vidéoprojection du film Grozny des nouvelles du 51 de Saulois et Lacombe, suivi d'un débat avec Mylène Saulois.
Sachant que, oui, le Centre d'art La Fenêtre propose justement une exposition photo autour de la Tchétchénie.
D'accord. Et toujours demain, le ciné-club Jean Vigo proposera la projection débat autour du film Abattoir 5 de Georges Roy Hill au Centre Rabelais à 20h.
Et puis l'association Timecode propose une soirée au local Minga pour présenter ses activités et ses projets avec projection de courts-métrages et de films documentaires et suivi de discussions.
Le cinéma Utopia proposera à 20h toujours demain le film « Toute ma vie en prison » de Mark Evans, suivi d'un débat avec Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme et le MRAP.
Le MRAP, ouais.
Le MRAP, le MRAP. Et l'avant-première, bien sûr, n'oublions pas, de La vérité si je mens 3 au Gaumont Multiplex à 20h, toujours demain, en présence de l'équipe des acteurs. Mais apparemment, la séance est complète.
Oui, je crois qu'il y a trois salles qui sont archi-complètes. Eh oui, eh oui, eh oui. Vendredi 20, cette fois-ci, et même le 21, à Béziers, le Ciné-Club Biterrois propose un week-end Raoul Ruiz avec les projections des films de Trois vies et une seule mort, et puis de Mystère de Lisbonne, et c'est au cinéma Mon Ciné.
Et à Frontignan, vendredi, le cinéma Ciné Mistral proposa à 19h la projection du film Tous au Larzac de Christian Rouault, suivi d'un débat avec les acteurs de la lutte du Larzac. On ne l'a pas beaucoup vu, c'est vrai, ce film cette année. Et ensuite, samedi, à Nîmes, le cinéma Sémaphore proposera à midi la projection du film Vengo de Tony Gatliff, suivi d'une rencontre avec le réalisateur lui-même.
Et bien souvent, Tony Gatliff dans le coin. Le dimanche 22, c'est à Montpellier, le cinéma Diagonale propose à 11h la projection du film Et si on vivait tous ensemble, qui me semble-t-il sort mercredi prochain, c'est de Stéphane Roblin et il sera présenté par Guy Bedos qui est acteur dans le film. Et c'est encore à moi, c'est le lundi 23, toujours au Diagonale, à 19h40 la projection du film L'Esprit du vin, le réveil des terroirs, décidément on parle beaucoup de vin cette semaine, de Yvon et Olympe Mainvielle, suivi de débats avec les réalisateurs.
Mardi, au cinéma Diagonal, il y aura la projection du film Les Chants de Mandrin à 19h50 de Rabah Amerzheimer, suivi d'une rencontre avec le réalisateur, un film qui était passé au cinéma d'ailleurs.
Absolument. Et on essaiera d'avoir, on l'aura, l'interview du réalisateur.
Donc nous l'aurons. Toujours mardi 24, le cinéma Utopia proposera à 20h30 la projection du film Leonara de Pablo Trapero, suivi d'un débat avec Janine Chamon, psychologue clinicienne, maître de conférences en psychopathologie clinique. Excuse-moi.
T'as du mal avec psy, le préfixe psy ou quelque chose comme ça. Moi, c'était avec Panorama. cette fois-ci, le 24 mardi 24 à Pézenas, le ciné-club Jean Renoir propose la présentation et la projection du film. Elle s'appelait Sarah de Gilles Paquet-Brenner. C'est à 20h30 et c'est au cinéma Molière. On précise pour terminer qu'à l'Utopia passe toujours Carnage, Il était une fois en Anatolie, L'exercice de l'État, L'apprenti, Le Havre, Leonara, Les neiges du Kilimandjaro, Louise Wimmer, qui semble être un beau succès, Oh my God, Shame encore, Tous au Larzac, et oui, décidément, Toute ma vie en prison et Turn me on. On peut aussi préciser, puisqu'on a une minute, qu'il y a le festival Télérama, qui se déroule du 18 au 24 janvier. C'est l'occasion de voir eh bien, des films qui ont été choisis par la rédaction et puis les lecteurs du magazine Télérama. Ça se déroule donc au cinéma Le Royal. Il y a Les Bien-Aimés, il y a Black Swan, Drive, Essential Killing de Jerzy Skominowski, que Martin avait chroniqué, que je n'ai pas mis dans les extraits. L'exercice de l'État, Le gamin en vélo, La guerre est déclarée, Habemus Papam, Il était une fois en Anatolie, Incendie, Le Havre, Les neiges du Kilimandjaro, La pielle qui est Habito de Pedro Almodovar, Tomboy que tu avais chroniqué ici, et puis Une séparation qui semble-t-il est le prix lecteur Télérama, voilà, de l'Iranien Asghar Farhadi.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, Cinérama, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine avec deux invités. Là, on en avait zéro. On en aura deux la semaine prochaine. Merci Marine.
Merci Vincent. Merci à tous. À la semaine prochaine.
Et avec des interviews, puisque tu as vu un film hier en avant-première.
Oui.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.